Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. C'est toujours un peu délicat quand on est un mec de s'aventurer sur le terrain de la contraception. Parce que malheureusement, ça reste majoritairement une problématique féminine, vu que la société dans son ensemble fait reposer cet élément pourtant crucial de la sexualité sur les femmes. Il se trouve qu'en plus, l'offre en la matière peut assez vite se transformer en casse-tête, voire en cauchemar. Et c'est cette réalité que nous avions envie de vous raconter aujourd'hui, en cassant, comme on le fait tous les vendredis, la forme habituelle de notre rendez-vous. L'enfer de la contraception, c'est un reportage d'Anouk Perry réalisé par Théo Boulanger, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Il y a plein de façons d'aimer. Il y a plein de moyens de contraception. La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit.
J'ai grandi avec cette publicité en tête, la promesse de pouvoir choisir une contraception qui me convient. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce choix est une réalité qui en cache une autre beaucoup plus dérangeante. Chaque moyen de contraception traîne derrière lui son lot d'effets secondaires. En préparant ce reportage, j'ai parlé de ce sujet à toutes les femmes que je croisais. Pas une seule ne m'a dit avoir gardé le même moyen de se protéger depuis le début de sa vie sexuelle. Pour les moins chanceuses d'entre elles, il a fallu parfois des années et de nombreuses tentatives avant de trouver un moyen de contraception qui leur convient. Alors, histoire d'y voir plus clair, j'ai été à la rencontre de Laura Berlingot, une gynécologue obstétricienne.
Globalement, toutes les filles doivent faire un peu des concessions. C'est rare. Il y a des filles qui trouvent vraiment, qui prennent une pilule et puis c'est parfait pour elles et tant mieux, c'est cool et elles peuvent continuer comme ça pendant longtemps. Mais le fait est que dans toute ta vie reproductive, de toute façon, ton propre taux hormonal quand t'as 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans, il n'est pas du tout le même. Donc globalement, tu seras amené à, enfin, on est tout amené à changer de contraception à un moment.
Mais avant de l'écouter plus longuement, voici deux témoignages. Tout d'abord, celui de Victoire. Elle a 31 ans, dont plus d'une décennie de galères à cause de la contraception.
Je crois que j'ai juste été élevée par ma mère qui est née dans les années 50 et donc du coup était ado, jeune adulte dans les années 70. Et oui, la pilule, c'était une libération à cette époque-là. Je pense que maintenant, on est arrivé à un moment où la pilule, c'est bien, mais faut peut-être essayer de trouver quelque chose de mieux. Alors la première fois que j'ai pris une contraception, enfin un moyen de contraception, c'était la pilule, et c'était pas du tout dans une optique d'éviter les bébés, c'était en fait pour essayer de faire pousser un de mes seins qui ne poussait pas. Et du coup je me suis fait blaster à l'âge de 14 ans avec des grosses pilules pleines d'hormones. Ça n'a pas marché, par contre j'ai pris énormément de poids, j'étais un peu déprimée. Alors bon, ça n'a peut-être pas de rapport, mais en tout cas c'était moyen sur tout le reste.
Ça a duré combien de temps cette première expérience ?
2 ans à peu près, jusqu'à mes 16 ans, où là ils se sont bien rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Du coup, chirurgie esthétique, et puis c'était bien, quoi. Voilà. J'ai commencé à reprendre la pilule, je devais avoir 18-19 ans, quand j'ai commencé vraiment à avoir des mecs, quoi. Et du coup, rebelote, j'en ai fait plein, ça fonctionnait pas bien, pas dans le sens où ça marchait pas je tombais enceinte, mais j'étais déprimée, j'avais mes règles à n'importe quel moment, c'était vraiment très désagréable, et j'ai jamais réussi à trouver vraiment une pilule qui m'allait. En comptant celle du début, j'en ai quand même essayé 5 ou 6. Je trouve ça quand même beaucoup. Surtout que généralement, tu les essayes genre sur 3-4 mois pour bien voir si ça te convient et les effets aussi secondaires, quoi. Du coup, mon gynéco, qui était quand même très très pro pilule, contraception, tout ça, m'a dit « Écoute, on va te prescrire un anneau qui s'appelle le Nuvaring. » En gros, tu le mets et puis après, bah, du coup, tu changes toutes les 3 semaines. Et mon gynéco, finalement, quand il m'a prescrit le Nuvaring, il était plein de bonne volonté, mais ça n'est pas allé non plus pour d'autres raisons. Avoir un corps étranger comme ça tout le temps en moi, c'était vraiment très désagréable. Ça génère d'autres complications, notamment voilà, les mycoses, des vaginites, plein d'autres choses en fait qui étaient des cystites. Qui ne sont pas très agréables pour aucune femme, je crois. Cystite, c'est une infection urinaire. Et en gros, t'as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Et ça t'appuie sur la vessie. Et ça te brûle quand tu fais pipi. Et c'est horrible. Voilà. La vaginite, en fait, c'est... En gros, tu peux pas avoir de rapport. Ça fait super mal. Ça te brûle vraiment dans le vagin. Du coup, tu dois mettre des ovules qui te détruisent ta flore. C'est assez insupportable et c'est à peu près la même chose qu'une mycose, mais c'est pas exactement le même traitement, en fait. Voilà, la mycose, c'est un champignon que tu as déjà à l'intérieur de toi, mais qui, en gros, se développe de manière plus importante à un moment, qui, en gros, qui te gratte, qui te brûle. Pendant très longtemps, je ne savais pas que c'était à cause du Nuvaring. Hein, moi, pendant... En fait, à un moment donné, je me suis dit, je suis juste allergique à la bite de mon mec, quoi. C'était pas le cas. Mais voilà. Ça, plus le fait que le Nuvaring, par exemple, quand j'ai eu le Nuvaring, le truc, c'était que c'était extrêmement cher. C'était genre 51 euros pour 3 Nuvaring. Et du coup, à un moment donné, je suis arrivée... quand je me suis séparée de mon copain avec qui je suis restée 5-6 ans, j'ai dit « fuck ». J'ai dit « en fait, je m'en fous. En fait, ils ont qu'à mettre des capotes. » Et puis, voilà. Et depuis, effectivement, j'utilise plus rien.
Enfin, des préservatifs.
Des préservatifs, oui, effectivement. Enfin, j'utilise plus rien qui, moi, me ferait bouger un peu mon taux d'hormones et ou me provoquerait des complications au niveau de la vulve, quoi. J'ai pensé au stérilet, mais le souci, c'est que mon gynéco de l'époque m'avait dit « t'as pas encore eu d'enfant, du coup c'est moyen. » Et en plus, là c'était l'époque où je prenais le Nuvaring, comme t'as problème de mycose à répétition et du coup t'as une flore extrêmement, extrêmement fragile, c'est une super mauvaise idée pour toi. Du coup, je m'en suis tenue là. Et j'avoue, comme j'ai un peu peur, je vais pas dire genre ma chatte c'est mon bébé, mais je m'en occupe beaucoup, j'utilise beaucoup des probiotiques et tout ça pour qu'elle soit bien. Du coup, l'idée de mettre un stérilet en cuivre, ça m'angoisse particulièrement parce que j'ai peur que ça modifie en fait ma flore. Quand je suis passée à la capote, au début ça allait. Et puis à un moment, j'ai eu un truc super bizarre. J'ai eu une allergie de la chatte parce que j'ai eu une allergie au latex. Voilà. Enfin, j'ai vraiment, genre, c'était... ça a été ultra violent. Je suis allée aux urgences gynéco. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais en train de me faire plein de films dans ma tête atroces. Et en fait, au bout d'un moment, ils m'ont regardé, m'ont dit je crois que c'est le latex, mademoiselle. En gros, c'est comme si j'avais toutes mes lèvres et l'extérieur et un peu l'intérieur, mais vraiment toutes mes lèvres qui étaient ultra gonflées, ultra dures, comme un eczéma en fait. Voilà. Donc tu vois l'eczéma, j'avais ça, mais à l'entrée de mon vagin. En soi, c'est pas dérangeant d'être allergique au latex quand ta seule contraception c'est la capote, parce que il existe plein de marques de préservatifs qui n'utilisent pas de latex. Faut juste bien vérifier et faut juste, si jamais tu rentres avec quelqu'un que tu connais pas forcément, bien lui préciser avant que cette personne, par exemple, n'enfile quelque chose qui pourrait te détruire ta vulve. Voilà. Je préfère m'en tenir à la capote plutôt que de subir ce que j'ai subi pendant un peu moins de 15 ans, mais un truc comme 12 ans, ça fait beaucoup quand même. Le truc, c'est que finalement, on se rend compte quand on passe à plus de contraception du tout, qu'il y a plein de mecs, surtout de mecs, qui trouvent quand même qu'on fait pas d'efforts. enfin, on sent quand même qu'on est quand même dans un bon gros patriarcat et que la contraception féminine, c'est beaucoup, beaucoup pour que le mec s'emmerde pas avec un gamin derrière. Hein. C'est pas pour nous, pour qu'on soit plus libre, comme je pensais quand j'avais 14 ans. Il y a pas mal de mecs qui, en fait, ne supportent pas les capotes, entre guillemets. Et en fait, c'est plus un problème de capote. En gros, à chaque pot, son couvercle, il y a vraiment énormément de tailles de capote qui existent. C'est juste que c'est plus cher. Il faut peut-être plus chercher que simplement prendre la Durex classique que tu trouves en pharmacie ou au Franprix. Voilà, il y a des sites en ligne, il y a des magasins surtout qui peuvent exister à Paris qui, en gros, permettent de choisir vraiment une capote qui vous convient. Et c'est à ce moment-là que, si vous avez vraiment tout essayé, vous pouvez dire « Ouais, mais en fait, ça me saoule, la capote. » Mais en vrai, la majorité des mecs qui disent ça, c'est juste que ils n'ont pas fait l'effort d'essayer. Alors que nous, par contre, on nous a fait faire genre « Allez, 5 pilules, allez, essaye le Nuvaring. Et si tu tentais pas l'implant ?» Donc je me dis « merde, bougez-vous un peu le cul, quoi. » Mon message, il est simple, tant qu'on n'aura pas trouvé d'alternative, la capote, c'est quand même fantastique. Et je conseille surtout aux jeunes femmes et aux femmes qui galèrent avec leurs moyens de contraception, à un moment donné, si elles trouvent pas, si ça fonctionne pas, s'il y a rien qui fonctionne, fuck quoi, enfin juste lâchez vos moyens de contraception et partez sur la capote quoi. C'est faux que la capote c'est pas agréable, c'est moins sympa. Oui, bien sûr, il y a le côté faut l'enfiler et tout, mais franchement, ça vaut pas le coup de se détruire la santé pour satisfaire soit le besoin masculin d'être vraiment à l'intérieur de la femme, soit nous, notre envie d'être plus au naturel. Enfin, je sais pas, j'ai jamais compris en fait.
Comme Victoire, mon amie Carlotta a eu du mal à trouver une contraception qui lui convient. Cette Brésilienne qui habite à Paris depuis 7 ans a tenté plusieurs pilules et aussi l'implant. Elle a connu de nombreux effets secondaires, comme des pertes de sang qui s'étalent sur des semaines et de fortes prises de poids qu'elle n'a jamais réussi à perdre ensuite. Elle accuse également les hormones d'avoir généré chez elle des crises d'angoisse et des sautes d'humeur. En tout, elle a tâtonné à la recherche d'une contraception qui lui convient pendant 8 ans. Il y a 2 ans, elle a décidé de prendre une décision qui peut sembler étonnante à notre époque.
Donc c'est à ce moment-là, donc à 26 ans, que j'ai décidé avec mon copain de commencer à compter mes jours. Et donc je compte mes jours avec l'aide d'une appli. Et je prends ma température tous les matins. L'appli, il t'explique tout, donc il fait le boulot pour toi. Donc t'as pas forcément besoin de comprendre comment ça se passe. Et en même temps, avec mon copain, on connaissait les risques. On savait que quand j'ovulais, il fallait qu'on se protège. Et quand c'était le jour vert, c'était fête. Mais en fait, ma sœur est tombée enceinte récemment. Elle utilise aussi une appli du même genre, donc ça nous a un peu inquiétés. Donc maintenant, on utilise les préservatifs. Je savais ça, mais ma mère, elle m'a rappelé du fait que moi aussi, je suis née de ce genre de méthodes. Donc,
Bonjour Laura.
Bonjour Anoul.
Est-ce que tu peux te présenter en une phrase?
Je m'appelle Laura Berlingo, je suis gynécologue obstétricienne.
Est-ce que la méthode du comptage de jours, donc compter ses jours entre les cycles, peut être comptée comme une contraception?
Moi, sincèrement, ça me gêne beaucoup d'appeler ça une contraception. Moi, je trouve ça bien de connaître son corps. Enfin, tu vois, de dire, je connais mes cycles. Il y a des filles qui ont des cycles de 28 jours pile et qui ovulent à leur 14e jour tout le temps. Elles le sentent. Enfin, très bien. Et voilà, c'est une méthode de connaissance de tout son corps. Après, c'est quand même pas la majorité. On peut tout avoir des cycles, même chez les filles qui ont des cycles hyper réguliers, parce que il y a de la fatigue, un voyage, un stress, le travail. Il peut y avoir plein de raisons, des nuits blanches, une maladie. Enfin, quand je dis une maladie, c'est un rhume un peu sévère, quoi, une grippe. Ça peut complètement te foutre en l'air ton cycle. Donc, en fait, il y a tout le temps cette idée que il y a rien qui est sûr. Donc, si on veut vraiment pas de grossesse, compter juste sur le compte des jours ou le retrait, ça me paraît osé.
Pourquoi, quand on demande une première contraception, la majorité des gynécologues vont proposer la pilule ?
Alors, quand tu dis la majorité des gynécologues vont proposer la pilule, juste, c'est les gens qui proposent des contraceptions. Il n'y a pas que les gynécologues. Ça peut être un médecin généraliste ou une sage-femme. Et effectivement, je pense qu'il y a le côté où déjà, il y a des filles qui vont consulter un professionnel de santé avant même d'avoir des rapports sexuels. Et donc, je pense qu'il y a un côté aussi où, quand on prescrit une pilule, on n'a pas besoin de faire un examen gynécologique. Tu vois, l'interrogatoire et la prise de tension artérielle, ça suffit pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication à la prise de pilule œstroprogestative. Donc, je pense qu'il y a un côté un peu de facilité de prescription. C'est un cachet à prendre tous les jours. Alors, il faut y penser, certes. Ça ne nécessite pas de mettre de chlore étranger dans l'utérus ou dans le bras. Et qu'on n'a pas vraiment lancé sa vie sexuelle, je pense que voilà, il y a un côté un peu plus simple de prendre une pilule plus préservatif que de se lancer dans une contraception qui demande un peu plus d'engagement physique, on va dire.
Au bout de combien de temps doit-on s'inquiéter quand on a des symptômes qui nous semblent plus ou moins liés à cette contraception ?
Alors, je dirais 1 à 3 mois selon le type de symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins gênants. Globalement, il faut que le chlore, que ce soit des hormones ou pas, parce que la contraception, c'est soit la contraception aux hormones, soit le DIU au cuivre, les deux, il faut un temps d'adaptation du chlore. Quand on commence une contraception ou quand on l'arrête, il y a toujours un moment où on est un peu flottant. Et notamment pour les troubles de l'humeur, la libido, enfin tous les trucs un peu de fond, au moment où il y a des changements hormonaux, c'est comme quand on débute une grossesse ou après avoir accouché ou au moment de la ménopause, quand il y a des changements d'hormones, il y a des changements d'état de base qui peuvent tout à fait revenir à une normale au bout de 3 à 6 mois. Donc je pense que quand c'est ce genre de problème de fond, quand c'est pas trop invalidant, attendre 3 mois. Après, typiquement le DIU au cuivre qu'on a posé en consultation, qui au bout de 2 semaines, 3 semaines, on saigne en continu, c'est hémorragique, on a super mal, faut consulter avant et se le faire enlever, c'est pas grave, il y a d'autres moyens de contraception.
Et est-ce qu'il y a un moyen d'être sûr que les symptômes sont liés à la contraception sans arrêter la contraception ?
Non.
Je demande ça pour les personnes qui ont l'impression d'avoir moins de libido.
Ouais. Voilà, c'est plus pour ce genre de problème. Parce qu'effectivement, les saignements, par exemple, on met un stérilet, on se met à saigner. C'est assez lié. Les troubles de la libido, c'est très compliqué parce que, en plus, vraiment, c'est ce truc hormonal tout le temps qui est que parfois, quand t'arrêtes, au moment où t'arrêtes, c'est pareil. Tu as soit une montée de libido, soit une descente. Et en fait, ça se calme au bout de 3 à 6 mois. Parce que c'est les mouvements d'hormones en fait, qui font ça. Faut pas imaginer qu'on a toutes, par exemple, je vais dire vraiment n'importe quoi. Imaginons qu'on a 50 mg d'œstrogène dans le sang et 20 mg de progestérone et qu'on serait tout le temps à la même chose et que la contraception qu'on prend en plus, ça vient nous dérégler. Pas du tout. On a toutes des hormones qui sont super différentes à tous les âges. C'est-à-dire que ça change durant toute la vie reproductive et ça change durant le cycle lui-même. En début de cycle, en milieu de cycle, en fin de cycle. Donc on ne peut pas du tout dire à ce taux-là, je suis très bien et à ce taux-là, je ne suis pas bien. Non. C'est le corps qui s'habitue plus ou moins, quoi.
Comment réagir face à un médecin qui dénigre les symptômes, qui dit que c'est un peu dans la tête, la libido qui chute ou les maux de tête,
je vois très bien et j'ai vraiment pas de solution miracle. Je pense que de manière générale, un médecin n'a pas à mettre ses croyances et ses opinions dans la relation de soins. Un homme ne connaît pas du tout ce genre de problématique et que, ça fait toujours un peu rire quand les mecs t'expliquent que, mais non, c'est pas possible d'avoir des troubles de la libido avec la pilule. Prends la pilule, et une libido cyclique, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas du tout. Ils ont pas de cycle hormonal, ils ont pas de règles, ils ont pas de modifications hormonales dans leur vie. Donc, j'ai pas de solution miracle à part de dire, essayez de s'imposer au maximum. Et si ça convient pas, allez consulter quelqu'un d'autre. En fait, il y a pas, nul n'est irremplaçable, c'est pas parce que c'est. Après, je sais que dans certaines villes ou dans certains villages, c'est plus compliqué de consulter, qu'il faut aller plus loin et que voilà, l'offre de soins n'est pas la même partout. Mais s'il y a quelqu'un qui ne vous écoute pas, il faut quand même s'écouter soi avant tout et échanger, aller voir quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'il y a une contraception qui n'a aucun effet secondaire indésirable possible ?
Pas à ma connaissance. Après, non. Alors, est-ce qu'il y a une contraception qui n'a aucun effet indésirable ? Au cas par cas, il y a des femmes qui trouvent vraiment leur contraception idéale. Enfin, moi, j'en vois en consultation des femmes qui disent moi, depuis que j'ai un DIU à la progestérone, ça a changé ma vie, j'y pense plus du tout, j'ai plus de règles, c'est parfait, voilà, ça me va parfaitement bien. Donc, on peut trouver, en tout cas, il faut chercher. Je pense que c'est une quête de la contraception idéale. Individuellement, ça peut exister. Après, est-ce qu'il y a une contraception qui n'a que des avantages, qui ne fait que de la contraception et qui a zéro inconvénient, zéro effet secondaire ? Non, clairement, je pense qu'on ne peut pas dire que ça existe.
et pourquoi on n'a toujours pas trouvé une contraception qui convienne à tout le monde ?
Je sais pas pourquoi on n'a pas trouvé de contraception qui convient à tout le monde. Et quand on dit tout le monde, on parle des femmes, mais ça pourrait être des hommes aussi. Je pense que clairement, il y a une question de moyens financiers mis dans la recherche ou pas. Je pense que la recherche en contraception n'est clairement pas à son top niveau dans le monde.
Jusque-là, nous parlons de contraception. De pilules beaucoup, mais aussi un petit peu de DIU, ou stérilet comme on dit souvent, une méthode contraceptive non hormonale. Mais il y a une autre solution dont on ne parle que très peu, la stérilisation. Il faut dire que son caractère définitif peut faire peur. Ça a été compliqué pour moi de trouver une personne pour témoigner à ce sujet. Et si Tiffany a accepté, c'est parce qu'elle avait confiance en moi. Elle a presque 28 ans, est célibataire et sans enfant. À 18 ans, elle a pris une première pilule qui lui a causé une phlébite. Pour se soigner, il a fallu qu'une infirmière vienne lui faire des piqûres d'anticoagulants dans son ventre tous les jours, pendant plusieurs semaines. Une deuxième pilule lui a causé de nombreuses sautes d'humeur et d'importants maux de ventre. Après ça, on lui a posé un stérilet en cuivre, ou dispositif intra-utérin, DIU, qui lui a causé de terribles douleurs de règles, puis un stérilet hormonal. C'est sous ce deuxième stérilet qu'elle est tombée enceinte. Elle a décidé d'avorter. Elle a fini par retourner à l'usage strict des préservatifs, jusqu'à ce qu'elle trouve un praticien qui accepte de la stériliser. Elle m'explique son parcours, au téléphone, de la Bretagne où elle vit.
Depuis l'enfance, en fait, je sais que je veux pas d'enfant. C'est pas tellement un choix de pas vouloir d'enfant, c'est juste que je ressens pas du tout l'envie d'avoir des enfants, en fait. Donc j'ai voulu confirmer ce ressenti par quelque chose de médical, donc en demandant une stérilisation. J'ai fait un peu tous les gynécos de la ville, quoi, et à chaque fois, j'avais comme réponse que j'allais changer d'avis. Un médecin m'a répondu « Bah oui, mais si vous faites pas d'enfants, vous allez faire quoi ?» Et on m'avait dit une fois, par exemple, « Mais vous voulez pas trouver le prince charmant ?» Et j'ai répondu « Bah, le prince charmant, il veut pas d'enfants. » En fait, la stérilisation, en dehors de l'aspect purement médical, ça a surtout été un long combat de garder son calme face à des réflexions infantilisantes, parfois très personnelles aussi. J'ai eu l'impression d'être vraiment jugée, qu'il fallait que je me justifie de tout, tout le temps. Et j'ai fini par en trouver un quand j'avais 25 ans. Donc le praticien que j'ai trouvé sur Internet, j'ai pu avoir un rendez-vous avec lui quelques semaines après, ça a été assez rapide. Par contre, comme c'était pas du tout dans la région dans laquelle moi j'habite, il a fallu que je fasse à peu près entre 4 et 5 heures de route. Globalement, c'était pas très pratique comme affaire, quoi. Le rendez-vous en lui-même, ça s'est très bien passé parce que j'étais face à un praticien qui justement ne m'a pas jugée, n'a pas du tout jugé mon choix. Et donc on a déclenché le délai de réflexion, qui est un délai de 4 mois. Pendant ce délai, le médecin m'a demandé de consulter un psychologue pour attester que je n'étais pas en train de vivre une période dépressive. Donc en fait, il faut que tu justifies que tu n'as pas de problème. Mais bon, après, d'un point de vue juridique, je comprends qu'on m'ait demandé ça parce que le médecin, il a tout simplement besoin de se protéger. S'il y a un regret plus tard, le médecin derrière, il est protégé.
À l'époque, deux méthodes lui sont proposées. Il y a la ligature des trompes, qui consiste à interrompre les trompes de Fallope par des clips ou avec des points. Il y a aussi la méthode Essure, qui consiste à l'introduction de micro-implants dans les trompes de Fallope qui vont boucher la voie. Tiffany choisit cette deuxième méthode car elle ne nécessite qu'une anesthésie locale. Précision. Cette méthode n'est plus proposée depuis 2017 suite à de nombreuses plaintes de femmes. Beaucoup disent que ces implants leur ont causé de très fortes douleurs pelviennes et des règles hémorragiques.
Après l'intervention elle-même, elle a été assez douloureuse parce que l'anesthésie locale, il n'arrivait pas à atteindre la zone dans laquelle ça allait faire mal. Donc en fait, il piquait tout autour, mais la zone faisait quand même très mal. Donc j'ai pas un souvenir merveilleux de l'opération elle-même. En dehors de ça, globalement, ça s'est bien passé. Il y a juste une chose que j'ai trouvée assez désagréable et même un peu grave, voilà. Pendant l'opération, donc la personne qui m'opérait, c'était pas le praticien avec qui j'avais signé les papiers en fait, mais c'était une gynécologue avec qui il travaillait et qui était très bien. Et par contre, à un moment, la gynéco qui plaçait les échures a eu des difficultés parce que comme j'ai 25 ans et que j'ai pas eu d'enfant, mon utérus évidemment, il est pas comme celui de quelqu'un qui en a eu plusieurs. Et donc, elle m'a dit qu'elle préférait demander un peu d'aide à une de ses consoeurs qui avait plus l'habitude de faire ce type de pose. Et la consoeur, par contre, avait pas du tout été mise au courant, ni de mon âge, ni du fait que j'étais nullipare, ni de quoi que ce soit, en fait. Et donc, quand elle est arrivée dans la pièce, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais vous avez quel âge ?» J'ai dit « J'ai 25 ans ». Elle m'a dit « Vous avez combien d'enfants, mademoiselle ?» Je dis « Zéro ». Et là, elle a soufflé, elle a regardé sa collègue. J'avais l'impression qu'elle était en train de fusiller sa collègue du regard. Parce que moi, j'étais allongée, les pieds dans l'étrier. Enfin bon, voilà, le genre de position qui est déjà de base pas très confortable. Et en plus, pas le genre de position dans laquelle on peut se sentir un peu en confiance pour protester. Donc, j'ai rien dit. Mais en fait, ensuite, elle a filé un coup de main à sa collègue. Et elle a quand même fait... Elle a quand même aidé à l'intervention, mais ça se sentait qu'elle était en colère contre sa collègue. Après, voilà, c'est passé. Et quand je suis rentrée chez moi, et ben, ça allait. Et, ben, j'étais contente de pouvoir enfin avoir pu confirmer dans mon état physique, on va dire, ce non-désir d'enfant que j'ai. C'est juste un soulagement qui est telle que j'ai l'impression de vivre en accord avec mon corps, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ça m'a permis vraiment de me réconcilier avec mon corps, en fait. Et je trouve que c'est super important de le dire, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un confort physique, finalement. C'est bien plus que ça, je trouve.
Aujourd'hui, Tiffany va bien. Victoire semble s'être fait une raison au fait d'utiliser des préservatifs. Carlotta se questionne encore sur le futur de sa contraception. Et pendant que des femmes testent à tâtons des contraceptions, croisant les doigts pour ne pas souffrir d'effets secondaires, la contraception des hommes reste un tabou. Si vous voulez comprendre pourquoi, Victoire Toyon a dédié une émission complète des couilles sur la table à ce sujet.
C'est bon.
Quand j'étais ado, je répétais que la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit.
La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit.
Je ne suis plus vraiment d'accord. La meilleure contraception, c'est surtout celle qu'on ne subit pas.
Merci à Anouk Perry pour ce reportage. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Théo Boulanger. Les prises de son sont signées Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.